I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le chasseur me tuera, lapin intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 8e épisode, je reçois Marine, la maman de Charles et future maman d'un deuxième bébé. Marine est la créatrice du site Le Divan des Parents, une plateforme sur laquelle on peut retrouver les témoignages de mamans sur divers sujets de maternité. C'est un peu le tourbillon version web. Et comme toutes les mamans, Marine a aussi son histoire. Et c'est donc elle qui témoigne aujourd'hui pour parler de l'arrivée de son deuxième bébé, qui n'était pas prévu de si tôt. Avec Marine, on parle du nouveau rythme qui s'impose quand on devient maman, de son ressenti face à sa grossesse surprise et de l'éducation d'enfants rapprochés. Bonne écoute. Bonjour Marine, bienvenue dans le tourbillon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Alors je voulais revenir avec toi sur la création du Divan des Parents, donc ton site, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie de monter ce projet.
C'était après la naissance de Charles. Après mon accouchement, j'ai trouvé que l'arrivée de Charles a été assez compliqué dans ma vie, plus dans le sens, beaucoup de choses étaient chamboulées, mon quotidien, mes petites habitudes, et du coup je me suis dit que c'était pas aussi rose que ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu verras, c'est génial, avoir un bébé, c'est hyper épanouissant, c'est formidable, etc. Et au final, oui, il y avait ce côté un peu magique, mais il y avait aussi la dure réalité qui était que le quotidien est soutenu, il y a beaucoup de fatigue, j'allaitais, donc Charles était très demandeur, puis mon conjoint a dû très rapidement partir travailler, donc voilà. Au final, je me suis retrouvée un peu seule face à mon bébé et j'ai trouvé que c'était relativement difficile. Et en parlant donc à ma communauté sur Instagram, je me suis aperçue qu'en fait, on était beaucoup de mamans dans le même cas, parce que j'avais reçu donc plusieurs récits aussi de vie qui me racontaient les difficultés que les mamans rencontraient. Et je me suis dit, c'était dommage que je sois la seule à avoir accès à ces récits et que ces mamans n'ont pas forcément blog, donc n'ont pas de moyens de s'exprimer. Donc ce serait le parfait endroit pour les publier, ce serait d'avoir un site internet. Et donc du coup je l'ai créé. Et aussi je l'ai créé justement par rapport à ma fausse couche que j'avais faite avant d'avoir Charles, où je me suis dit ça manquait un petit peu sur internet. Une espèce de plateforme, de répertoire de témoignages de mamans qui soient bien classées sous des thèmes, bien écrits, une plateforme claire, précise sur les différentes thématiques qu'on recherche. Et c'est là qu'est né le Divan des Parents. Je me suis dit, c'est ce qu'il nous faut sur Internet, c'est ce qui nous manque en tant que maman quand on est dans une situation soit de bonheur ou même de désespoir, certaines choses, de pouvoir retrouver des discours d'autres mamans.
Donc chaque maman a son histoire et aujourd'hui, du coup, c'est toi qui témoignes à mon micro. Je voulais savoir comment as-tu vécu ta première maternité ?
Alors, par maternité, je vais entendre, ma petite année de grossesse et mon année avec Charles qui a eu un an. Ma grossesse très bien, j'ai une grossesse relativement facile, des nausées au début, comme pour toutes les mamans, et puis grossesse au top, j'ai adoré être enceinte, c'était quelque chose que j'ai trouvé génial, super contact avec la maternité à ce niveau-là, donc du coup j'étais plutôt positive pour la suite en me disant que l'accouchement se passerait bien, la suite aussi, j'étais assez optimiste parce que je suis de nature relativement optimiste à la base, Et puis finalement, l'accouchement s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai fini avec une césarienne d'urgence. Ce que j'appréhendais surtout en post-accouchement, c'était le baby blues. Je n'y ai pas échappé. Donc là, ça a été déjà un petit peu compliqué. Mon séjour à la maternité n'a pas été aussi rose que je l'avais imaginé. On va dire que j'étais un petit peu... je me sentais un peu claustrophobe dans la maternité. J'avais qu'une envie, c'était d'en sortir et d'inscrire ma vie de maman, mon bébé dans mon quotidien. Donc ouais, j'ai trouvé ça long parce qu'après une césarienne, normalement, on reste un petit peu plus longtemps qu'un accouchement par rebâtre. Après, comme je disais tout à l'heure, le chamboulement, un rythme soutenu avec un bébé qui était quand même très demandeur, qui faisait peu de sieste. Donc c'était compliqué et peu de temps pour moi au final parce que j'avais pas beaucoup d'aide. Je me suis retrouvée quand même pas mal toute seule. Je me suis retrouvée vraiment des après-midi où je me suis dit je suis vraiment seule quoi. Enfin, et donc voilà, et puis en fait après la vie a suivi son cours et si voilà, je devais résumer mon année, je dirais quand même très dense. J'ai trouvé dommage que de ne pas avoir pu dégager plus de temps pour moi, mais pas dans le sens pour moi et me coucouner, mais plus dans le sens de pour moi et travailler, faire autre chose en dehors de mon enfant. J'étais très prisonnière, j'ai trouvé, de cette relation où, un peu de mère au foyer où finalement tout était organisé en fonction de Charles, de ses siestes, de ses repas. Il n'allait pas à la crèche, donc j'étais vraiment seule pour le garder. Donc c'était vraiment du H24 avec lui. Et j'avoue qu'il m'a manqué quelque chose, c'était juste que mon enfant me manque par moment. J'aurais aimé avoir envie d'aller chercher Charles à la crèche, d'avoir les papillons dans le ventre en pensant à lui, etc. Et finalement, en étant mère au foyer, je me suis combien de fois surprise à penser « Ah bon, bah vivement qu'il aille faire sa sieste » ou en entendant finir sa sieste « Ah, déjà !» en me disant « J'aimerais bien avoir plus de temps pour moi » et surtout pour travailler à l'époque donc, sur le divan des parents. Qui était un petit peu ma petite porte ouverte sur l'extérieur, même avec mon blog. C'était un petit peu le truc que j'ai trouvé difficile, c'était d'être dans cette espèce de spirale infernale où tout était vraiment organisé en fonction de Charles et que moi j'avais pas d'emploi du temps pour moi-même, enfin, c'est-à-dire je travaillais quand je le pouvais, pas quand j'en avais vraiment envie. Donc j'ai trouvé l'année très 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 dense. J'avoue, je ne le referai pas. Je ne suis pas assez courageuse pour le refaire. J'admire beaucoup les mamans qui sont des mères au foyer. Moi, personnellement, j'ai voulu le faire, je l'ai fait. J'ai pu toucher du doigt réellement ce que cette expérience pouvait m'apporter et puis pouvait apporter à Charles, parce que pour moi, c'était très important que la première année, il reste avec moi. Mais c'est vrai que je ferai les choses différemment. Plus tard.
Et alors, au bout de combien de temps tu as réussi à trouver ton rythme ?
J'irais au bout de 4-5 mois. Il a rapidement fait ses nuits, mais il a mis beaucoup de temps à faire des siestes relativement longues et des siestes tout court. Enfin, c'était un bébé qui dormait pas beaucoup en journée, qui dormait 40 minutes par-ci par-là, mais. Parfois, il dormait que 2-3 fois en journée, donc ça me laissait quand même peu de répit. Je dirais, quand il a commencé à faire des vraies siestes un peu le matin et l'après-midi, c'est là où j'ai commencé un peu à me dire je peux pouvoir travailler pendant 1h30 sur quelque chose, faire autre chose, m'occuper un peu de la maison, d'avoir. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est assez compliqué de. Un enfant change tellement tout le temps. Dans son comportement, je veux dire, même aujourd'hui Charles a encore un rythme pas toujours très régulier, donc vu que, comme je le disais précédemment, je fais tout en fonction de lui, finalement moi j'ai du mal à avoir un rythme régulier si lui n'en a pas un. Donc je suis souvent retrouvée à dire c'est cool, cette semaine il y a quelque chose qui s'est un peu mis en place, et la semaine après boum, balayé, on était reparti sur un autre rythme. Donc c'est très aléatoire en fait. Donc je peux pas vraiment dire j'ai trouvé réellement un rythme, à part le fait que les siestes un peu longues m'ont libéré du temps, et là j'ai l'impression un peu de sortir la tête de l'eau.
Et avant la naissance de Charles, ou même dans l'absolu, est-ce que vous aviez envisagé avec ton chéri d'avoir d'autres enfants ?
Oui, on n'a jamais émis la possibilité d'avoir un enfant unique, au contraire. On a toujours voulu avoir plusieurs enfants. Ça, c'était une évidence pour nous. Alors, à moins qu'il y ait des soucis qui nous en empêchent d'en avoir d'autres. Mais oui, la volonté était là, en tout cas.
Et alors, il y a quelques mois, tu as appris qu'un bébé surprise était logé dans ton ventre. Comment tu as compris que tu étais de nouveau enceinte ?
Alors, c'est assez rigolo. Je pense que c'est mon conjoint qui l'a compris avant moi. on était en vacances dans le bassin d'Arcachon et mon amoureux me disait très gentiment, c'est bizarre, tu grossis du ventre mais pas des jambes.
Buveuse de bière.
Voilà, et c'était étonnant parce que effectivement, je ne buvais pas vraiment d'alcool et je ne mangeais pas de frites, donc voilà, donc c'était un petit peu bizarre. Effectivement, mon ventre prenait vraiment une vente de femme enceinte, quoi. Enfin, c'était rigolo, quoi. Enfin, c'était vraiment comme s'il y avait une espèce de mémoire de forme et que tac, touc, il était là, quoi. Enfin, vraiment présent, quoi. Je pouvais pas le cacher. Enfin, c'est-à-dire que ça faisait 15 jours que j'étais enceinte et on voyait mon ventre. Et en rigolant, en rentrant, il me dit ah, tu devrais peut-être faire un test de grossesse parce que je conseille de dire tiens, c'est bizarre, j'ai un peu en retard de règles de 2-3 jours. Et puis, genre, oh, mais non, elles vont arriver. En ce moment, c'est un peu chaotique parce que je venais d'arrêter la pilule, justement, parce que l'autre pilule m'allait pas du tout. C'était une pilule que j'avais prise pour l'allaitement qui avait que des effets négatifs sur moi. Du coup, ma gynéco m'avait dit, bon, bah, arrêtez la pilule, vous donnez un peu de répit avec la pilule, et puis dans l'été, fin d'été, on reprendra sur notre pilule, mais donnez un petit moment de break à votre corps, faites attention, et puis voilà. Apparemment, on n'a pas fait assez attention. Mais voilà, donc j'avais un retard de règles. Bon, jusque-là, voilà, bon, je m'alarmais pas plus. Et puis finalement, il a fini par me convaincre de faire un test. Et puis, heureusement, j'avais un test, un vieux test de grossesse qui traînait de la grossesse de Charles. Et je suis allée le chercher et j'ai fait, bon, bah, ok, je vais faire le test. Je l'ai sous la main, parfait. Et là, voilà, les deux barres.
Et tu t'attendais pas du tout à voir les deux barres apparaître, j'imagine ?
Ah non, mais vraiment pas. C'est-à-dire que pour moi... voilà, mon ventre, c'était plus dû à bah, voilà, les ballonnements, enfin, comme on est un peu avant les règles, quoi. On est toujours, enfin, je sais que avant les règles, je suis toujours un peu plus gonflée d'eau, etc. Et puis, ouais, puis, non, c'était impensable. Enfin, moi, je parle vraiment de la théorie, enfin, c'est un peu une déformation. Je sais pas si c'est pour me prémunir de l'angoisse ou d'une quelconque anxiété, mais je suis partie du principe que ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire que c'est pareil pour la fausse couche, ça n'arrive qu'aux autres. L'accouchement par césarienne d'urgence, mais non, ça n'arrive qu'aux autres, c'est-à-dire c'est des choses auxquelles je ne pense pas, enfin, et du coup j'angoisse jamais parce que j'imagine jamais en fait ce genre de scénario. Là, je me dis, mais non, ça arrive aux autres, ça, moi je vais accoucher normalement, enfin, il n'y a pas de problème, enfin. Et en fait, bah, c'est pareil, la grossesse surprise, ça arrive aux autres, pas à moi.
Et en fait,
donc oui, une grosse surprise en voyant les deux traits sur le test de grossesse.
Et alors, comment tu l'as vécu cette nouvelle ?
Un peu mitigée. Vraiment, de mon côté, c'était un peu le ciel me tombe sur la tête, quoi. C'est-à-dire que, oulala, non, ça tombe pas du tout au bon moment, c'était pas du tout prévu comme ça. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que quand j'étais enceinte de Charles, je voulais avoir des enfants rapprochés.
D'accord.
De cet âge-là, exactement. Puis j'ai eu Charles. Et j'ai vu ce que c'était qu'avoir un enfant. Et je me suis dit, wop, je vais me donner un petit break quand même. Donc, voilà, ce que j'aime prévoir. Je me suis dit, bon, bah, on va mettre 3 ans d'écart, ça sera parfait. Pour moi, voilà, c'était parti comme ça. Même si voilà, je connaissais tous les arguments très positifs à les avoir rapprochés, j'avais envie d'être égoïste et de dire, non, mais là, j'ai un peu envie de vivre aussi pour moi. Charles ira un peu à la crèche, c'est une année où je vais pouvoir me concentrer sur mon boulot. Sur d'autres choses que réellement la maternité, et puis profiter de Charles à fond, enfin, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie, et puis voilà, j'étais très convaincue de ce choix-là, et très heureuse de ce choix-là. Et donc, du coup, ouais, ça tombait pas du tout dans mon programme, là. C'était, je regarde mon agenda, non, je vois pas d'enfant prévu à cette date-là, ça va pas du tout. Et donc voilà, et puis ouais, un petit peu à côté de comment on va faire, quoi. On avait déjà acheté la maison qu'on va bientôt avoir. Donc bon, déjà de ce côté-là, le côté en fait un peu logistique était réglé, mais je me voyais avec 2 enfants en bas âge, parce que bah, quand on va déménager et qu'il y aura le deuxième bébé, bah j'aurai plus de crèche, plus rien du tout. Donc avec 2 enfants, donc je m'imaginais en fait cette année que j'allais trouver très difficile. se réitérer de manière deux fois plus difficile, plus intense. Et j'étais là, mon Dieu, comment je vais faire? Donc, et puis, pour être totalement franche, j'avais pris ça un peu comme un coup du sort, un peu en me disant, écoute, petit bébé, là, tu vas me la faire à l'envers. Tu m'as pas trop demandé mon avis. Pourquoi, quoi? J'avais du mal à avoir le côté très magique, en fait. Ce qui a complètement changé, en fait, avec le temps, c'est ça qui est assez rigolo. C'est le temps a vraiment œuvré dans le bon sens. D'ailleurs, au début, je disais, ah non, non, mais c'était pas un bébé voulu. Enfin, je parlais avec des termes de ça. Puis c'est même mon amoureux qui m'a reprise en disant, en fait, on dit pas ça, on dit c'est un bébé surprise. En fait, poétiquement parlant, on dit un bébé surprise. On dit pas que c'était pas un bébé voulu. Et au début, je disais ça. Ah non, non, mais je le voulais pas, hein. Et du coup, c'est vrai que maintenant, avec du recul, je m'aperçois que c'était très maladroit d'en parler comme ça. Et avec le temps, c'est marrant, avec les mois, en fait, qui ont suivi, aussi quand le début de grossesse, en fait, les trois premiers mois un peu pénibles se sont arrêtés. Et donc, le fait d'apprendre que c'était une petite fille m'a aidé à voir les choses sous un autre angle en me disant ah, bah, c'est complètement différent. Alors, ça va être une grossesse différente, c'est plein de choses différentes. Et donc, du coup, j'ai déjà vachement mieux pris les choses. Et au-delà de ça, avant que j'apprenne que ça soit une fille, en fait, je me disais, mais il y a un côté en fait très magique dans ce qui se passe. D'habitude, c'est nous qui voulons avoir des enfants, enfin, qui disons, bah voilà, on va commencer des essais pour avoir un enfant. Et là, bah non, c'est lui qui est venu s'inviter, comme ça, discrètement, et qui a dit non, non, c'est moi qui veux vivre, en fait, ça va être maintenant, et c'est moi qui choisis. Et c'est là où je me suis dit, finalement, toute cette magie-là, on l'a pas forcément quand on décide de faire des essais bébés, même s'il y a une autre magie évidente, mais voilà, il y a une autre magie, et que je trouve magnifique. Alors c'est vrai que mon regard a vraiment changé.
Et du coup, ton chéri, lui, comment il a pris la nouvelle?
Super bien.
Super bien.
Ouais. Non, lui, vraiment, super, c'est magnifique, c'est génial, très heureux. À un moment donné, il a pris quand même aussi un petit coup de panique quand on a commencé à réellement parler de logistique et quand on s'est dit, waouh, en fait, ça va être quand même vraiment une année qui va être très fatigante. Où là, il s'est dit, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup eu de répit entre Charles qui grandit enfin un peu, ou c'est vrai qu'on peut se permettre de plus laisser babysitter à la famille, etc. Bon, on enchaîne direct, mais non, c'est pas. Il a mieux réagi que moi sur le coup, ça c'est sûr.
Et est-ce que vous avez pensé à ne pas le garder?
Non, au contraire. Non. Ça s'est quand même rapidement dans ma tête transformé, hein. C'est un petit cadeau, quoi. Ouais, la vie m'a fait un cadeau et je le prends vraiment. J'ai rapidement pris comme ça et non, jamais. On avait tous les paramètres réunis pour l'accueillir. Donc non, ça s'est jamais posé.
Et alors le petit Charles, lui, comment il a vécu cette nouvelle?
Le petit Charles est devenu très peu de colle. Étonnamment, alors je sais pas si c'était parce qu'on venait de rentrer de vacances et qu'il nous avait eu pendant 15 jours avec lui non-stop. Charles est un bébé qui n'aime pas trop quand son papa part travailler. Donc souvent, voilà, il me colle beaucoup en journée. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus que d'habitude. Et au point de vraiment être tout le temps dans mes bras. En plus, il faisait 30 degrés dehors. C'était pendant l'été, c'était très difficile. Il y a ça aussi qui m'a pas aidée aussi au début de la grossesse. C'est qu'il faisait une chaleur à mourir. J'étais fatiguée. Charles était très peu de colle, très demandeur. J'avais pas du tout d'aide de nos familles parce que soit ils étaient en vacances, soit un peu loin. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à me dire, oh là, juillet, août vont être très très longs. Et effectivement, ils ont été très très longs. C'était, je pense, les pires mois de toute ma vie. C'est triste à dire et je suis la plus malheureuse du monde quand je fais ce constat, mais ça a été tellement difficile alors que j'avais un petit bébé en bas âge qui allait super bien, qui est mignon comme tout, et un autre dans le ventre qui prenait forme. Et bah, pourtant, ça a été pour moi les mois vraiment les plus difficiles. Beaucoup plus que même après accouchement. Entre la fatigue, les nausées, enfin j'ai pas eu beaucoup de nausées mais j'en ai un petit peu, la nouvelle que j'ai dû quand même un peu accepter, et puis Charles qui était mes potes colle comme rarement, je l'ai vu, c'était compliqué, 30 degrés dehors, je pouvais pas le sortir pour rester enfermée dans l'appart. Au moment où j'aurais pu le sortir, c'était le soir vers 20h, mais c'est le moment où il va se coucher, nous coller du coup un peu à l'appart. On pouvait pas sortir boire un verre ou au resto ou quoi que ce soit. Oh, j'ai trouvé l'été long, mais long. En plus, on avait fait la bêtise entre guillemets de partir en juin et fin août, Donc vraiment, en se retrouvant juillet-août à Paris, d'habitude, j'adore le mois d'août à Paris, il n'y a personne, c'est désert, mais d'habitude, avant, on n'avait pas d'enfants et on sortait tout le temps, on allait se balader, on allait voir des potes, enfin voilà, on avait une vie de gens sans enfants. Et du coup, c'est vrai que l'été était sympa à Paris comme ça, et on trouvait ça cool de partir en décalé, pas sur les mêmes vacances que tout le monde. Mais en fait, avec Charles, on s'est dit que c'était juste une énorme bêtise parce qu'on s'est retrouvés avec Charles toute la... Enfin, moi, en tout cas, Charles, sans pouvoir vraiment sortir à cause de la chaleur. Le soir, Olivier rentrait, il fallait vite doucher le petit, le faire manger, puis le coucher. Puis on s'est retrouvés tous les deux sur le canapé en disant « Bon, voilà, c'est une soirée encore devant la télé ou à manger, mais bon, autour de la table, sans sortir. » Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile.
Et comment tu lui expliques du haut de ses 1 an qu'il va avoir une petite sœur ?
C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, je pense, parce que ma mère me l'a beaucoup conseillé. On parle, un enfant te comprend, ma mère est directrice de crèche, et elle part toujours de ce principe-là. Et effectivement, et j'ai remarqué qu'il y a un double effet très positif au fait de parler à l'enfant, c'est que nous-mêmes, ça nous permet aussi de soit nous calmer quand il est en crise, soit d'accepter aussi une situation qui est en train de se passer. Et du coup, je lui parle depuis qu'il est né, je lui parlais d'ailleurs même quand il était dans mon ventre, et là c'est pareil, je lui explique les choses. Je dis, voilà, quand il essaye de me donner un petit coup de pied dans le ventre, quand je le change, je lui dis, là il y a ta petite soeur, je suis pas sûre qu'elle soit très contente que tu l'étales dans le ventre, on va plutôt aller lui faire une caresse. Voilà, je lui en parle comme si elle existait déjà et qu'elle avait elle aussi sa petite part dans la famille. Et parfois, j'ai dit, tu sais, maman, là, ce soir elle est fatiguée. Je ne sais pas ce qu'il comprend vraiment, mais en tout cas, les choses sont dites.
Et est-ce que tu t'es dit justement que tu allais aller voir sur des plateformes pour te renseigner un peu plus sur les enfants rapprochés ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, les arguments pour avoir des enfants rapprochés, je les avais. Parce que c'était une idée qui m'avait largement séduite quand j'étais enceinte, le charme. Donc les arguments super positifs, je les avais. Et les arguments un peu négatifs, je les avais aussi, parce que j'ai des copines qui ont eu des enfants rapprochés. Donc j'ai vu et j'ai entendu à quel point ça pouvait être difficile. Donc je connaissais un petit peu, les deux côtés, les deux facettes. Non, je ne me suis pas sentie forcément, pas forcément l'envie. J'en ai parlé sur Instagram, alors il y a des mamans qui m'ont donné des petits conseils.
Et alors comment se profile l'organisation avec tes deux enfants en bas âge ?
Alors, on a prévu de déménager en maison. Donc ça se fera en cours d'année, donc qui dit cours d'année dit qu'il n'y aura pas de crèche, de possibilité de crèche sur place dans les médias. Donc on a décidé de prendre une fille au père sur la prochaine année. Donc vu qu'on aura une maison, on aura la possibilité de l'héberger, ce sera plus simple pour elle, pour nous et puis pour les enfants aussi.
Et alors qu'est-ce qui a pu te faire peur dans cette grossesse surprise ?
Le fait que je pourrais pas profiter de Charles comme je l'avais imaginé, avec un peu une impression de trahison au début. J'avais l'impression que j'allais le trahir. De pas profiter de Charles comme j'aurais aimé. Sachant que j'aime beaucoup, en tout cas chez les autres, les enfants entre 18 mois et 3 ans. J'adore cet âge-là. Je l'ai mince, je vais être prise dans les couches et l'allaitement avec la deuxième et je vais pas du tout pouvoir m'occuper et voir Charles grandir. Donc il y avait cet aspect-là et sur un point de vue plus égoïste, le fait de me dire mince, je me laisse pas du tout de temps pour moi, pour mon couple, pour essayer de trouver justement ce fameux rythme, essayer de prendre notre rythme à nous. Mais en fait, avec le temps, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a pas de rythme parfait et on n'aura jamais un rythme linéaire. Donc dans tous les cas, un enfant ça marche tellement par phase que enfin, entre guillemets, c'est jamais le bon moment et c'est toujours le bon moment quoi, pour en avoir un deuxième. Donc c'est là où je me suis en fait. J'ai compris qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais moment. Et puis il y a juste un moment où soit on décide, soit le bébé le décide et c'est le meilleur moment.
Et au contraire, alors qu'est-ce qui te rassure dans le fait d'avoir des enfants rapprochés ?
Qui jouent très rapidement ensemble, de les voir très complices, qui est une espèce de lien entre frères et sœurs qui se développe de manière, je pense, très rapide, et puis c'est l'amour inconditionnel qui les lie. Mais moi, j'ai vécu ça avec ma propre sœur, alors qu'on a quand même 3 ans d'écart. Donc je pense que c'est pas une question d'écart, mais ça, c'est quelque chose, je me dis, ouais, qu'ils seront presque comme des jumeaux, alors peut-être qu'ils développeront ça, ou pas, parce que je connais des gens pour qui, au contraire, les enfants s'entendent pas du tout, alors qu'ils sont très rapprochés. Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Mais ouais, c'est un peu ça qui me fait me dire que ça va être cool. Puis me dire qu'en fait, là, c'est plus au niveau des parents, de me dire que bah, on va passer d'une phase à l'autre, peut-être de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur faire faire les mêmes choses assez rapidement. Ça va être une année qui va être très dense au début, mais après, ça irait peut-être beaucoup plus facilement que justement d'avoir des enfants trop éloignés en termes d'âge. Mais je pense que là aussi, c'est une question, il n'y a pas de règle. Chaque enfant a sa personnalité, chaque enfant évolue à son rythme. Et puis, il y a aussi ce que nous, on offre à nos enfants, qui je pense... la dynamique de la famille joue beaucoup aussi, je pense, sur ça. Donc, éloigner ou approcher, je pense qu'en fait, au final, on ne peut pas prévoir, quoi. Voilà, je pense que la maternité m'a appris une chose, c'est que rien n'est écrit et que tout peut changer. Et que surtout, bah, on n'est pas le seul à diriger les choses. On a beau vouloir que ça se passe comme ça, si l'enfant en a décidé autrement, bah, ça se passera autrement. Et pour le coup, j'essaye de ne pas trop faire de plan sur la comète. C'est un peu ce que ça m'a appris aussi d'être maman. Essayer d'éviter de trop voir trop loin, essayer de relativiser plus rapidement, de dire bah, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est vrai que le fait de les avoir rapprochés, je pense que ça va être aussi une belle leçon sur plein de points à venir, que je ne connais pas encore. Et ouais, mais c'est vrai que c'est une sacrée aventure dans laquelle on se lance. J'aime bien le challenge, donc ça ne me dérange pas.
Et est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire différemment?
Je pense que la maternité, j'essaie au contraire de profiter différemment en disant bah voilà, c'est un petit moment sympa de découverte avec son petit bébé. Faut le prendre comme ça parce qu'une fois qu'on sera à la maison, bah, on sera tous réunis et tac, le rythme familial va commencer. Un petit moment de tête à tête, j'essaie de le voir plutôt comme ça, comme un petit moment de tête à tête, de découverte, plutôt que comme avec Charles, j'étais là, bon, allez vite, j'ai envie d'entrer à la maison, le voir dans sa chambre, le voir dans son petit berceau, du moins, ce qui était avec moi. Puis voilà, d'avoir mon petit quotidien, ma cuisine, mes trucs, enfin voilà, mon environnement. Donc j'ai envie vraiment de vivre la maternité autrement. Après, baby blues, bah ça, on n'a pas trop de... Voilà, on ne choisit pas. Et puis surtout, après, pour le reste, ouais, me dire que tout n'est qu'une phase. Au lieu de voir une espèce de tunnel sans fin, me dire que bah, voilà, les choses vont évoluer, vont rapidement changer, qu'un enfant qui ne dort pas au début n'est pas forcément un enfant qui ne dormira jamais. Et l'inverse, un enfant qui dort, il ne faut peut-être pas trop s'en réjouir rapidement, c'est peut-être un enfant qui un jour ne dormira pas. Donc voilà, plutôt me dire qu'il y a des phases et qu'il faut prendre un peu les choses comme elles viennent. Et jamais espérer, pas mieux, mais je découvre ça en ce moment avec Charles qui va à la crèche. On est rentré de voyage des États-Unis et pendant 3 semaines, Charles a été vraiment malade. C'est vrai que je me suis aperçue, en fait, qu'on est toujours là. Bon, bah, ça ira peut-être mieux la semaine prochaine, il va commencer la crèche. Mais en fait, non, c'est un autre problème qui est venu se rajouter, les angoisses de séparation, etc. Et là, c'était les nuits qui étaient plus compliquées, alors que quand il était malade, on avait la chance, il dormait quand même bien la nuit. Puis en fait, au final, après, on s'est dit, bon, bah, quand les nuits iront mieux, peut-être que tout sera redevenu parfait. Mais en fait, non, on a remarqué qu'il y avait autre chose qui vient prendre le relais. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient prendre le relais. Et en fait, il faut jamais espérer qu'un jour tout soit parfait et qu'on vive tous dans le monde des bisounours. Non, c'est pas ça, la maternité, c'est un autre problème, on chasse un autre. Et puis, enfin, c'est comme ça. Et ça, j'ai appris là récemment qu'en fait, il n'y aura jamais de. Si j'attendais d'être heureuse dans mon rôle de mère, parce que je suis heureuse quand même, mais d'être vraiment épanouie dans mon rôle de mère, quand Charles dormirait bien, mangerait bien, ne serait pas malade et serait gardé, non, ça n'arrivera pas. Il faut chercher l'épanouissement dans autre chose que dans une espèce de projection de vie parfaite. Faut chercher l'épanouissement dans des petits moments de bonheur, comme un bain avec son bébé, comme des éclats de rire, comme un jeu, comme... Enfin voilà, dans des parcelles de vie très courtes, c'est là où ça se passe, c'est là où l'intensité du bonheur est, et il faut pas voilà, se dire toujours oh là là, le calendrier est pourri, j'espère que la semaine sera mieux ou autre chose. Enfin, j'ai compris qu'il fallait arrêter de se projeter dans une vie meilleure ou dans un moment plus parfait, parce qu'en fait la perfection n'existe pas avec les enfants, et c'est tout là le charme de la maternité.
Et alors, tu en parlais en début d'épisode, tu avais fait une fausse couche avant l'arrivée de Charles. Est-ce que du coup, tu vois ce bébé surprise un peu comme une revanche ?
Alors, je ne vais pas dire revanche, mais je vais dire qu'elle m'a aidée à prendre la question de la fausse couche sous un autre angle. Quand j'ai décidé de tomber enceinte de Charles, voilà, la décision était prise, il fallait que je sois enceinte. Il n'y avait pas d'autre... d'autres possibilités. Donc c'est vrai que ma fausse couche, quand je l'ai faite, ça a été un coup dur parce que, ben, comme je le disais précédemment, ça n'arrive qu'aux autres. J'étais pas trop au fait réellement de la fausse couche, quoi. Pour moi c'était quelque chose un peu rare, en fait. Pour moi c'était vraiment quelque chose qui arrivait pas souvent, enfin c'était... j'avais pas du tout... Puis même, je crois que c'était même un mot que je connaissais pas vraiment, quoi. Enfin, c'était fausse couche. Ouais, c'est un truc qui arrive aux femmes enceintes, mais je ne sais même pas quand, comment, pourquoi. Enfin, c'était vraiment une question très lointaine. Et du coup, quand j'ai fait ma fausse couche, au-delà de l'impact de la tristesse d'avoir perdu un potentiel bébé à venir, ce qui a été très dur, c'était surtout comment j'ai vécu après le début de ma grossesse qui a suivi, donc celle de Charles, où j'étais dans l'appréhension toutes les heures de faire une fausse couche. C'est-à-dire que dès que j'allais aux toilettes, je priais pour pas avoir de traces rouges dans ma culotte. Enfin, c'est un peu triste de dire ça, mais c'était le cas. Ou dès que j'avais un mal au ventre, j'étais en train de me faire tous les scénarios catastrophes. Ou je comptais les jours pour arriver à la fin de ces fameuses 12 semaines de grossesse. Enfin, c'était tout été... compliqué, c'est-à-dire que j'étais allée m'acheter un Doppler pour écouter le cœur du bébé le plus rapidement possible. Je l'écoutais pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Voilà, ça m'avait quand même plongée dans une espèce d'obsession vis-à-vis de la fausse couche et donc du bien-être du bébé, qui était assez, en fait, pas triste, mais...
stressée.
Ouais, voilà, puis je dirais qu'en fait, on n'a pas envie d'aborder la maternité sous cet angle-là, en fait. Au début, quand je l'ai vécu, c'était la déception de perdre un petit être. Mais ce qui m'en reste aujourd'hui comme souvenir, c'est surtout de me dire, bah, à cause de cette fausse couche, j'ai vraiment eu un début de grossesse pour Charles que j'aurais aimé différente. J'aurais aimé qu'elle soit plus posée, plus apaisée, avec voilà, d'autres problématiques en tête que toutes les heures de me dire est-ce que je vais perdre ou pas. Et donc du coup, là, avec cette deuxième grossesse, ben, j'ai vécu les choses différemment. Je me suis dit, ben, là, c'est le destin qui a choisi, c'est ce petit bébé qui a choisi de venir. Ce qui m'a permis d'apprécier la grossesse complètement, enfin le début de grossesse un peu différemment aussi. Donc j'étais beaucoup moins stressée et beaucoup plus apaisée sur ce sujet.
On va passer aux questions rituelles de fin d'épisode. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir maman ?
Tout a été changé dans ma vision de voir les choses, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de moi, du temps aussi. Je trouve que le temps n'a plus la même échelle. Oui, je pense que oui, ça change réellement. Je trouve que d'être parent, ça change beaucoup de choses. Quand on dit « Oh, être parent, ça change peu de choses », j'ai quand même du mal à croire ces gens-là. Enfin, du moins, on n'a pas la même appréciation des choses, mais pour moi, ça change tout. Et heureusement que ça vient tout changer. Heureusement. C'est juste une... J'ai l'impression que c'est, un nouveau départ. Une nouvelle vie, quelque part.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Très pénible. Je trouve ça dur. Dur avec des enfants en bas âge. Je pense que quand on a des enfants un peu plus âgés, on peut leur faire des expos, les amener se balader, et qu'ils découvrent les choses et qu'ils sont justement dans l'apprentissage. C'est peut-être plus simple, mais avec des bébés en bas âge, je pense que c'est compliqué. Entre les poussettes, les pots d'échappement, parce que je suis très sensible à la pollution. Non, pour moi c'est pas simple. Je trouve que c'est plutôt pénible. C'est pour ça qu'on déménage d'ailleurs.
Est-ce que tu as un endroit kids friendly préféré ?
Comme je suis plutôt d'avis à ne pas trop me prendre la tête avec un enfant, on évite de trop sortir avec Charles. Donc on essaie de le faire garder. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup encore côtoyé d'endroits avec lui. Mais là, en tête, il me reste un souvenir tout bête. Je suis allée à la boutique Cézanne, qui est juste à côté de chez moi. Et l'agent de sécurité m'a ouvert la porte, m'a aidé à monter les marches, a proposé à Charles une madeleine, de l'eau, pour qu'il soit un peu... Enfin, il a essayé de le divertir pendant que moi, j'essayais de faire mon shopping. Et les vendeuses aussi étaient vraiment adorables et essayaient de le faire rire. Et je me suis dit en partant, mais c'est rare dans un magasin qu'on soit aussi bien accueilli avec un enfant de 1 an. C'est-à-dire que d'habitude, quand je rentre dans un magasin, dans une petite boutique, on me regarde un peu de côté en disant « Oh là là, pourvu qu'il dérange pas, que l'enfant dérange pas les autres clientes ou clients. » Et là, on a été... Alors que je m'attendais pas du tout à cette expérience-là, hein, j'ai jamais mis encore les pieds dans ce magasin et j'étais tellement surprise d'un accueil, et puis avec un sourire, un grand sourire, une bienveillance, de la gentillesse réellement envers moi, envers le bébé. Je me suis dit waouh, enfin, c'était. J'ai trouvé que l'appartement de Cézanne était très cute pour moi. Et vraiment, j'ai été très surprise. J'ai d'ailleurs même écrit un message à Morgane, qui a créé cette marque, en disant que j'étais vraiment enchantée par l'accueil des personnes qui travaillent pour elle. Et elle me dit, bah, c'est exactement ça que je recherche, quoi. Et effectivement, c'est tellement rare de nos jours d'être accueillie avec autant de bienveillance et de gentillesse. Donc, ouais.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, pour moi, le vivant des parents à fond. Développer encore le vivant des parents, toujours plus. Plus de thèmes à aborder, plus de témoignages encore à avoir. Et puis, ouais, développer ce projet... Du coup, bah, pour le blog, pourquoi pas développer un peu le blog, même si j'avoue que depuis que j'ai démarré le vivant des parents, j'aime bien être plutôt celle derrière mon écran que celle qui écrit. Donc je préfère laisser la voix aux mamans et je préfère permettre aux mamans ou même aux papas de s'exprimer plutôt qu'être celle qui s'exprime. Donc plus développer le vivant des parents et bah, essayer d'être plus présente sur Instagram parce que je suis parfois très discrète. Et pour la famille, bah, déménager. Donc là, on est en pleine réflexion sur les prochains mois, sur les aménagements de la maison, choisir les matériaux, la déco, etc. Trouver la perle, comme fille au père. Et puis voilà, profiter de ma grossesse. Je la vois pas passer. Enfin, j'ai bientôt arrivé à moitié du temps de ma grossesse. J'ai encore rien vu passer. Donc en profiter un petit peu, quand même, parce que c'est un moment que j'adore. Et puis préparer l'arrivée de ma petite et puis lui trouver un prénom parce que nous n'avons aucune idée de comment l'appeler. C'est vraiment la question. Toute la famille est sur la problématique, tout le monde, tous mes amis aussi. Tout le monde essaye de dire comment on va s'appeler cette petite fille parce qu'on avait une idée très précise de prénom. Et en fait, on s'est dit que c'était sans doute une bêtise, c'était trop original et il fallait absolument en changer. Et du coup, on se retrouve avec aucune idée, même pas de shortlist, il n'a pas d'idée, non pas d'idée. Et j'ai un amoureux très difficile. Donc c'est compliqué, donc plus trouver un petit prénom, ça fait partie des projets. Important à nos yeux. Et à ses yeux aussi, je pense. Et puis surtout essayer d'appréhender ses enfants rapprochés le plus sereinement possible.
Merci Marine.
Je t'en prie.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marine, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 8 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.